Mayenne Luxembourg. Bonjour Luxembourg. Allô Luxembourg. Le rendez-vous hebdomadaire en grande région transfrontalière du collectif Moselle Aveyron sans frontières. Herzlich willkommen. Bienvenue à tous. Bonjour l'Aveyron, le Luxembourg et la grande région. Dans Moyenne Luxembourg aujourd'hui, nous allons parler du Luxembourg, bien évidemment, avec cette fois-ci un point de vue complètement ou presque extérieur. Depuis l'Aveyron et Villefranche-de-Rouergue, comme toujours, bien sûr, et avec monsieur le consul honoraire du Luxembourg à Metz, en Lorraine, donc dans le Grand Est, Yves Wendling. Bonjour monsieur le consul. Moyenne.
Bonjour, Moyenne, effectivement, Véronique.
Alors, avec vous, monsieur le consul, aujourd'hui, nous allons essayer d'éclairer nos auditeurs pour les aider à appréhender le Luxembourg, donc depuis l'Aveyron ou ailleurs, et pour les aider à dépasser, en fait, les clichés qui sont trop souvent, voire systématiquement associés au Luxembourg, à savoir que le Luxembourg serait exclusivement une place financière et bancaire, un pays germanophone plus que francophone ou éventuellement un pays plus peu digne d'intérêt. Or, le Luxembourg est certes un pays très riche du fait de l'activité bancaire, mais pas que. Mais le Luxembourg est surtout un pays magnifique, européen et attractif qui associe avec brio, modernité, tradition et ouverture. Qui plus est, comme vous le dites très bien, monsieur le consul Yves Wendling, le Luxembourg est un pays très, très francophile. Donc avec vous, nous allons donc essayer de comprendre en quoi le Luxembourg est un pays très francophile. À quoi il doit sa richesse, puisqu'il fait partie des trois pays les plus riches du monde, entre guillemets, et pourquoi il est plus qu'intéressant et nécessaire de nouer des liens entre le Luxembourg et l'Aveyron. Mais d'abord, monsieur le consul, Yves, pouvez-vous nous expliquer un peu quel est votre rôle en tant que consul du Luxembourg à Metz? Je crois qu'il se dissocie en fait en deux branches. Si je puis dire, c'est-à-dire que vous avez à la fois un rôle de représentation et un rôle de renseignement.
Oui, effectivement, c'est-à-dire que j'ai une double mission, comme tous les consuls. La première mission, c'est ce qu'on appelle les affaires consulaires, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un luxembourgeois, une personne ou bien une entreprise luxembourgeoise qui rencontre des difficultés sur le territoire français dont j'ai la responsabilité, ils peuvent venir voir le consul et on essaye de régler les problèmes qu'ils peuvent avoir. Ça, c'est la première mission, c'est la mission essentielle de tout consul, quel que soit l'endroit dans le monde où il se trouve. Et il y a ce qu'on appelle donc un devoir de présentation également, puisque je représente le Luxembourg sur ce territoire, et donc à ce titre, je participe à des réunions, à des manifestations. Et puis j'allais dire, il y a une autre activité un peu particulière, puisque je suis le consul d'une zone frontalière, avec un échange extrêmement important, plus de 100 000 Français qui vont travailler chaque jour à Luxembourg, et donc une relation extrêmement dense, et j'essaye un peu, dans la place qui est la mienne, de favoriser les échanges, et puis aussi de faire remonter un certain nombre de messages, ou d'essayer d'apporter des solutions.
Oui. Alors, vous me disiez, je crois qu'il y a à peu près une dizaine de consuls du Luxembourg en France, c'est ça, dont un aussi, pour la région Occitanie, je crois, à Toulouse.
Alors, un petit peu moins, Véronique, c'est-à-dire qu'on doit être 6 aujourd'hui. Alors, il y en a effectivement un qui est à Toulouse, il y en a une qui est à Bordeaux, également à Nantes, à Rouen, à Nice, et donc moi qui suis sur Metz, et puis un consul général qui est à Strasbourg, mais qui lui est en charge des affaires européennes et rattaché aux institutions européennes.
Oui, alors vous dépendez à la fois de l'ambassade du Luxembourg en France, donc à Paris, et du ministère des Affaires étrangères et européennes, luxembourgeois donc.
Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que mon supérieur hiérarchique direct, c'est l'ambassadeur de Luxembourg à Paris, Martine Schommer, qui est encore là.
En l'occurrence l'ambassadrice donc, oui.
Voilà, l'ambassadrice qui va bientôt céder son poste, hein, puisque les ambassadeurs changent régulièrement d'ambassade.
Ah oui.
Et elle-même, ou l'ambassadeur qui va lui succéder, dépend directement du ministère des Affaires étrangères à Luxembourg.
Ok. Donc, bon, il faut dire que vous, vous avez la double nationalité. Hein, vous êtes français et luxembourgeois parce que vous êtes né donc au Luxembourg, dans le sud du Luxembourg, à Dudelan. Je crois que c'est la troisième ville du pays, n'est-ce pas ?
Oui, moi je suis né à Dudelan. Ma famille est originaire du sud du Luxembourg, c'est-à-dire la partie sidérurgique du Luxembourg. Oui. Et donc, je suis là-bas. Ma mère était d'Assurazette. Mon père était français, mais sa mère, à lui, était aussi d'Assurazette. Donc, parlait luxembourgeois à la maison. J'ai acquis ensuite, plus tard, la double nationalité. Et donc, j'ai un lien, évidemment, avec le Luxembourg qui est un lien affectif, d'abord. Oui. Et puis, culturel aussi.
Oui. Alors, il faut dire que, en fait, Dudelange, à côté de Esch-sur-Alzette, font partie donc des Terres Rouges. Et Esch-sur-Alzette, en particulier, cette année, est bien donc capitale européenne de la culture 2022, avec quelques communes aussi du nord lorrain, de la communauté de communes Pays Haut Val d'Alzette. Alors, je voudrais revenir avec vous d'abord sur ce petit pays qu'est le Luxembourg, que de loin, en fait, on prend souvent pour une place ou pour on ne sait pas trop bien quoi, en fait, parce qu'on sait que le Luxembourg est ou était une place financière et bancaire. Ce qui est sûr, c'est que c'est un petit pays riche, mais qui ne doit pas sa richesse exclusivement, en fait, aux banques. Mais d'abord, on revient sur le fait de ce petit pays qui lui confère tellement d'avantages aussi, et peut-être même sa richesse.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une histoire à Luxembourg. Histoire qui est riche, jusque dans les années 80, le Luxembourg était un petit peu partagé en deux, entre le sud, vous dites, sur Azette, capitale européenne de la culture aujourd'hui, et aussi siège de l'université de Luxembourg, à Esch-Belval.
Oui.
Une partie donc sud qui était liée à la sidérurgie, aux mines, et donc assez riche, un peu comme le nord de la Lorraine.
Oui.
Et puis le nord du Luxembourg, très agricole, très rural et donc plus pauvre.
Oui.
Et puis, fin des années 70, début des années 80, la crise de la sidérurgie, hein, que ce soit côté luxembourgeois ou côté français ou ailleurs. Et donc, il a fallu trouver un petit peu, réinventer le modèle.
Oui.
Et là, les luxembourgeois ont su, en tous les cas, ces dirigeants ont su être habiles. Et la première révolution, entre guillemets, que souvent beaucoup de gens ignorent, c'est les satellites. Et c'est d'ailleurs un lien avec votre région.
Oui, Toulouse.
Parce qu'à l'époque, il y avait une société qui aujourd'hui d'ailleurs existe toujours, qui s'appelle SES, donc Société Européenne de Satellites, qui est à Luxembourg, hein, qui fait 2 milliards de chiffre d'affaires, qui voulait lancer un satellite et personne ne voulait l'assurer. Alors l'État luxembourgeois a fait le pari, c'était à l'époque Jacques Santer qui était le Premier ministre, d'assurer le lancement du satellite. Et c'était un pari d'ailleurs très audacieux, puisque ça représentait plus d'un quart du budget de l'État, si jamais le satellite s'était écrasé. Heureusement, le pari a été gagné. Ce premier satellite, c'était Astra. Astra, c'est-à-dire c'est le satellite qui permet de regarder la télévision, hein, en tous les cas au début. Et ils ont continué évidemment dans cette avancée. Aujourd'hui, ils ont plus de 70 satellites. Et le Luxembourg, c'est plutôt méconnu, est un grand pays en matière de propriété de satellites et d'équipement des satellites. Et ça, c'est assez peu connu en général. Alors après, il y a eu effectivement l'arrivée des banques, la place financière qui s'est petit à petit développée. Au départ, d'ailleurs, avec certains avantages comme le secret bancaire qui a existé dans les années 80-90, qui n'existe plus aujourd'hui.
Oui.
Avec des avantages fiscaux au départ qui aujourd'hui n'existent plus vraiment. Il faut rappeler, je le dis toujours parce que quand certains disent que Luxembourg est un paradis fiscal, que d'abord l'impôt sur le revenu est à peu près l'équivalent de celui en France, que l'impôt sur les sociétés est également au même niveau. Alors il n'y a pas de droit de succession à Luxembourg, mais enfin il n'y en a pas non plus en Italie et dans d'autres pays européens.
Ah oui.
Et que donc l'intérêt fiscal aujourd'hui n'est pas la première des préoccupations de ceux qui viennent s'installer à Luxembourg. Il y a aujourd'hui à Luxembourg, depuis quelque temps, à force d'expérience, à force d'avoir monté cette place financière, un environnement qui est propice.
Mmh.
C'est-à-dire que si Luxembourg aujourd'hui, sa force, c'est notamment pour la gestion des fonds d'investissement, est aujourd'hui la première place dans le monde pour les fonds d'investissement, c'est parce que vous avez à Luxembourg, d'une part, des avocats qui savent gérer des fonds d'investissement, des juges qui savent trancher des litiges quand il y en a, des banques qui sont capables de vous accompagner dans la gestion des fonds d'investissement. Bref, vous avez tout un environnement, plus que des avantages fiscaux, c'est surtout l'environnement qui vous permet de travailler.
Mmh. Et c'est bien ce domaine qui recrute aussi beaucoup au Luxembourg, bien qu'en fait de nombreux domaines recrutent au Luxembourg.
Alors, c'est un domaine qui représente à peu près 12% des salariés à Luxembourg, ce qui n'est pas le plus gros secteur, mais qui évidemment est un petit peu le secteur qui tire les autres. C'est-à-dire que comme c'est un secteur où il y a de bonnes, où il y a des rémunérations importantes, bah forcément ça draine les autres secteurs d'activité. Et puis il y a un autre secteur aussi qui est très important à Luxembourg et qui était dans la construction du Luxembourg important, ce sont les institutions européennes.
Oui, parce que c'est une place bancaire et européenne, bien sûr. D'ailleurs, le tout se concentre dans le quartier du Kirchberg, en fait, à Luxembourg-Ville.
Les fonctionnaires européens à Luxembourg sont évidemment très nombreux et font partie aussi de l'attractivité de la ville, c'est évident.
Oui, et ça fait du Luxembourg, quelque part, le berceau de l'aérospatial aussi, hein, qui crée aujourd'hui aussi des connexions avec Toulouse, si j'ai bien compris.
Oui, il y a beaucoup d'échanges effectivement avec la région de Toulouse dans le domaine de l'aérospatial. Il y a un certain nombre de développements et puis vous avez une compagnie aérienne nationale, hein, Luxair, et puis surtout Cargolux,
oui. Hein,
qui a joué un rôle central, qui a extrêmement développé ses activités dans les dernières années avec la crise du Covid, où on a eu une augmentation du nombre de transports aériens, enfin de chars de fret en tous les cas.
Oui, donc nous sommes bien en face d'un pays, place internationale, place financière et place européenne, qui lui donne en fait son caractère multiculturel, éclectique également, et très ouvert en fait sur l'extérieur.
Le Luxembourg, comme tous les petits pays, si vous voulez, depuis le départ, étant donné que c'est un petit pays, a toujours dû être ouvert sur les autres pays.
Oui. D'ailleurs, il compose donc avec cette grande région transfrontalière autour de lui, c'est-à-dire l'Allemagne, la Belgique et puis la France. Hein.
Oui, bien sûr. Mais il a toujours fallu avoir une ouverture internationale à Luxembourg. D'abord, les jeunes devaient apprendre plusieurs langues parce que de toute façon, quand ils allaient faire leurs études, à l'époque, il n'y avait pas d'université à Luxembourg. Bah, il fallait bien faire des études soit en France, soit en Allemagne et donc parler une langue étrangère pour pouvoir suivre des études.
Mmh.
Et puis, quand vous créez une entreprise à Luxembourg et que vous essayez de la développer, vous ne pouvez pas vous contenter du marché national. Quand vous ouvrez une entreprise en France, vous intéressez au marché régional, puis après au marché national et éventuellement international. Le Luxembourg, vous êtes tout de suite dans le marché international.
Donc, le Luxembourg, pays exclusivement européen et international, donc ce qui m'amène à vous proposer donc, une petite parenthèse musicale que vous nous avez suggérée, Yves. En fait, il s'agit donc, bien sûr, de l'hymne à la joie, l'hymne européen, l'ode à la joie, donc, qui est extrait donc, du quatrième et dernier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven.
Effectivement, on est dans une période, il y a eu des élections en France ou dans d'autres pays où on remet un petit peu parfois en cause l'Europe. D'abord, l'Europe, comme disait souvent Jean-Claude Juncker, c'est la paix. Alors, on peut discuter du tout, l'Europe, ça peut être mieux, ça peut être moins bien, mais ça nous a apporté la paix quand même depuis 77 ans sur le continent et on a tous connu les guerres franco-allemandes et heureusement, il n'y en a plus. Et puis, c'est aussi un clin d'œil parce que dans les fondateurs de l'Europe,
oui. Je
disais tout à l'heure que Luxembourg était un pays fondateur parce que c'était un des 6 pays qui a signé le traité de Rome en 57, mais avant ça, il y avait eu le premier pas qui était la création de la CECA avec Robert Schuman, Jean Monnet et Alcide Gasperi.
En 1950, je crois.
Voilà, et oui. Robert Schuman, c'est un franco-luxembourgeois, c'est-à-dire qu'il a grand, il est né à Luxembourg, il a grandi à Luxembourg jusqu'à l'âge de 18 ans, dans ce qu'on appelle le quartier des Trois Glands, hein, qui est près du Grund à Luxembourgville.
Mm-hmm.
Et puis, à 18 ans, il est venu en France faire ses études pour devenir avocat. Donc, c'est vraiment un franco-luxembourgeois, et c'est des pères de l'Europe, et c'est en cela qu'évidemment, c'était un petit clin d'œil aujourd'hui de prendre l'hymne de l'Europe
pour
célébrer cette amitié.
Allez, tout de suite, un peu de musique, ouais. Le New Poppies dans l'hymne à la joie.
Plus de haine sur la terre que...
les New Poppies, donc dans l'ode à la joie, les New Poppies qui reprennent le flambeau des Poppies des années 70-80 que vous avez bien connu également, Yves, non ?
Oui, oui, bien sûr, ça nous rappelle à tous des souvenirs, évidemment.
Oui, alors les Poppies dans les années 70, même 71, je crois, très précisément, c'était non, non, rien n'a changé. Alors, c'était mon petit clin d'œil parce que vous êtes aussi de 1971, je crois.
Oui, 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 c'est tout à fait ça.
Ah,
vous,
voilà.
Je ne peux pas croire que vous l'êtes.
Voilà, donc, merci beaucoup. C'est un cadeau, donc. Et donc, nous disions tout à l'heure, donc, Monsieur Yves Wendling, je rappelle que vous êtes donc consul honoraire du Luxembourg en France, à Metz très précisément, pour les régions Lorraine et Champagne-Ardenne. Donc, en préambule, vous me disiez que le Luxembourg a cette grande qualité d'être très, très francophile. En quoi donc ? Pouvez-vous nous expliquer ça, Yves ?
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que je raconte toujours, parce que parfois les Français, et j'allais dire plus on s'éloigne de la frontière, plus on peut avoir ce sentiment, de manière c'est un peu normal, que Luxembourg serait un pays plus tourné vers l'Allemagne, un pays un peu germanique, anglo-saxon. Il y a une histoire très longue entre la France et le Luxembourg. Alors ça remonte à la bataille de Crécy, en 1340, et Jean l'Aveugle, qui était le duc de Luxembourg, s'est battu pour la France. Mais de manière plus récente, en 1919, il y a eu un référendum à Luxembourg pour savoir si Luxembourg voulait rester une monarchie ou devenir une république. Et trois quarts des Luxembourgeois ont choisi de rester une monarchie, donc un grand-duché. Et puis il y avait une deuxième question que tout le monde a oublié, c'était est-ce que vous voulez une union économique avec la France ou avec la Belgique ? Et les Luxembourgeois, à 75%, ont répondu avec la France.
Oui.
Et donc, ce qui montre bien qu'il y a une francophilie chez les Luxembourgeois. Alors, malheureusement, la France n'a pas donné suite à cette demande de la part du Luxembourg, pour des raisons sans doute de géopolitique européenne. On dit parfois en rigolant, c'est parce que les Français n'ont pas forcément du flair en matière économique, ils ont renoncé au Luxembourg, mais ça, c'est plus pour la boutade. Mais en tous les cas, il y a cette francophilie. Et puis donc, alors après, évidemment, en 1921, ça a donné l'union belgo-luxembourgeoise, et puis après le Benelux, ça a passé à ce moment-là. Mais au départ, le choix premier des Luxembourgeois, c'était de se tourner vers la France. Et d'ailleurs, quand vous discutez à Luxembourg avec des gens qui ont 50, 60, 70 ans, qui ont fait leurs études à l'étranger, la plupart ont fait leurs études en France, notamment
oui, c'est vrai.
Postes importants,
oui.
Parce qu'effectivement, il y avait cet amour pour la France. C'est ce lien avec la France qui, à la fois, effectivement, ancien et aussi aujourd'hui, d'extrêmement bonne qualité, puisque bon, une relation entre Xavier Bettel, le premier ministre luxembourgeois, et Emmanuel Macron, le président français, qui est excellente, hein, d'une part parce que c'est un peu la même génération, le même style, une certaine modernité, un renouvellement, et également en termes de relation entre les élus locaux. Et puis, je le disais tout à l'heure, hein, plus de 100 000 personnes qui traversent la frontière tous les jours, et donc des histoires personnelles, des histoires privées, des choses qui se créent, des liens qui se créent, des couples qui se forment, et donc une histoire qui continue d'avancer. Et puis, il y a eu la Covid, où on a effectivement bien coopéré, côté français, côté luxembourgeois. Le Luxembourg a pris des malades français quand les hôpitaux français étaient saturés. La France a aidé le Luxembourg sur d'autres points. Donc, toute cette coopération, cette volonté de vivre ensemble, elle est bien réelle. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la relation avec l'Allemagne. La relation avec l'Allemagne a été plus compliquée quand l'Allemagne a fermé les frontières
au moment
de la crise du Covid.
Récemment, oui.
La Belgique également avait à un moment fermé ses frontières parce qu'ils étaient submergés, les pauvres, par le Covid. Mais en tous les cas, avec la France, une excellente relation. Et d'ailleurs, je signale aussi un peu pour l'anecdote que le grand-duc de Luxembourg et le voisin du président de la République française à Brégançon.
Ah oui, c'est vrai.
Le président de la République française traverse la propriété du grand-duc pour se rendre au fort de Brégançon.
Oui, ça crée des rapprochements. Oui.
Voilà.
Et puis, ces 110 000 frontaliers français qui travaillent au Luxembourg ne sont pas tous originaires en fait, de Lorraine. Bien souvent, ils viennent des quatre coins de la France en fait, pour travailler au Luxembourg et sont quelque peu obligés de s'installer en Lorraine parce que le prix de l'immobilier est bien moindre en fait, qu'au Luxembourg.
Oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, au Luxembourg, les salaires sont intéressants, sont plus importants. Notamment pour les bas salaires, puisque le SMIC à Luxembourg est à 2000 euros net. Mais
oui.
Effectivement, ça, c'est un avantage. Sur les très gros salaires, les différences sont peut-être moins importantes et la fiscalité, je l'ai dit tout à l'heure, est un peu Mais effectivement, donc, aussi un prix de l'immobilier, une crise de l'immobilier à Luxembourg, parce qu'on manque de logements, on ne peut pas loger tout le monde, et donc des prix qui grimpent, et on arrive aujourd'hui à des prix de l'immobilier à Luxembourg qui sont proches des prix de l'immobilier à Paris. Ouais. Et donc, l'intérêt, effectivement, comme on a la même situation un petit peu avec la frontière suisse, c'est de résider, d'habiter côté français et de travailler côté luxembourgeois. Ouais. Alors ça, effectivement, et beaucoup de gens, vous le disiez, qui viennent de loin, parfois, parce qu'ils cherchent du travail. D'une part, parce qu'ils cherchent du travail, et d'autre part, parce que le fait de travailler à Luxembourg vous donne aussi accès à des postes qui peuvent être plus intéressants, des postes ouverts à l'international, où vous ferez des choses un petit peu plus intéressantes que si vous restez dans votre région d'origine.
Oui. Alors, le travail, la formation et puis la pratique des langues aussi font partie intégrante des intérêts pour lesquels il serait intéressant de nouer des relations, en fait, entre Luxembourg et Aveyron. Mais je vous propose, Yves, puisque nous arrivons à la fin de l'émission déjà, eh bien, de prévoir une prochaine émission dans laquelle nous aborderons donc la nécessité et l'intérêt de nouer des liens entre Luxembourg et Aveyron. Nous prenons rendez-vous, Yves, vous voulez bien ?
Alors, moi, je suis tout à fait à votre disposition et toujours heureux de partager un moment avec vous.
Et puis, je vous invite aussi à venir découvrir Villefranche, Najac et l'Ouest Aveyron en particulier, parce que vous m'avez avoué que vous ne connaissiez pas du tout.
Je avoue que je ne connaissais pas et je vous ai dit que je viendrai. Je viendrai.
Alors, à très bientôt en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Adi. Tchuss.
CFM. CFM Villefranche.